Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'Entreprendre. Bonjour à tous. Il remet les métiers d'hier au goût du jour. David Ferrara est le fondateur du Concept Store Tonsor et compagnie à Toulouse, un espace réservé aux hommes. David a créé un univers où l'homme est roi. Coiffure, barbe, vêtements et beaucoup d'autres choses. Il semble avoir trouvé sa clientèle. Tonsor et compagnie remporté l'été dernier le grand trophée du commerce décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Tonsor et compagnie est installé en plein centre-ville à Toulouse. C'est un espace pour les hommes où ils viennent, allez, disons-le, se faire chouchouter. Bonjour David Ferrara.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Est-ce que vous pouvez nous présenter Tonsor et compagnie? Vous parlez de concept store. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vient faire chez vous?
Alors, le terme concept store est peut-être un petit peu réducteur et surtout galvaudé parce qu'il a été utilisé un petit peu sous toutes les sauces. Moi, je parle d'un lieu dédié à l'homme. Assez large, puisqu'on va retrouver en effet à l'intérieur de ce lieu trois idées. Une première idée qui est une boutique pour hommes, qui se présente sous la forme d'un concept store en effet, qui va du casque de moto en passant par des skates, des vêtements, des bijoux, de la maroquinerie, de la librairie, papeterie, ouais. Donc très large. Une deuxième idée qui est la partie soins, dans laquelle on va retrouver coiffeur et barbier à l'ancienne, et puis des soins esthétiques. Et enfin, une troisième idée qui est ce que j'appelle le social club, qui est un lieu de vie et d'échange où on va recevoir pas mal d'artistes qui vont pouvoir venir se présenter et faire des prestations, organiser des événements type petites dégustations, concerts de musique. L'idée, c'est vraiment de proposer aux gens de découvrir un petit peu les talents qui sont dans la région et en même temps de pouvoir se rencontrer dans un lieu convivial.
Alors, pourquoi un salon pour les hommes? Parce qu'on a bien compris, est-ce que c'est interdit aux femmes?
Il n'y a aucune interdiction. On a, nous on s'est spécialisé dans un credo qui est l'homme parce que on a remarqué que sur le marché, ou en tout cas dans ce qui était proposé, on avait assez peu de lieux comme ça qui étaient proposés essentiellement pour les hommes.
Ouais.
Chose qui n'existait pas, qui n'était pas le cas au début du siècle par exemple. On avait beaucoup de clubs comme ça où les hommes pouvaient se retrouver. Aujourd'hui ça a eu un petit peu tendance à disparaître et donc on a voulu essayer de remettre ça un petit peu en place. Et donc de se spécialiser vraiment dans les besoins des hommes, dans toutes leurs différences et leurs variétés.
Vous avez commencé par lancer votre activité donc autour de la coiffure et de la barbe. Vous parliez de la barbe, de barbier à l'ancienne. C'est le métier que nos grands-parents connaissaient?
Exactement. L'idée, c'est on est vraiment dans une lignée d'artisans et de traditions. Donc chez nous, en tout cas chez la partie coiffeur et barbier, on va pouvoir bien sûr être à l'écoute de tous les besoins de nos clients, mais en même temps on reste sur des prestations qui sont assez basiques et qui sont des prestations dites traditionnelles,
ouais.
Et avec un savoir-faire traditionnel. On a mis en place, et notamment mon associé Hervé Boisbesseau qui est maître barbier, a réfléchi sur tout un protocole de mise en place de la prestation qui essaye de reprendre un petit peu les gestes d'antan. Et la pratique d'antan.
C'est-à-dire
l'utilisation de serviettes chaudes, alors à l'époque on appelait ça un coupe-chou, aujourd'hui c'est interdit dans les salons de barbier ou de coiffeur. On utilise plutôt une chavette, mais c'est l'équivalent d'un coupe-chou. L'utilisation du talc, de la pierre d'Alain, etc. Donc ce sont autant de petits accessoires et de gestes qui sont propres aux barbiers, mais qui ont été souvent oubliés par les hommes.
Qui étaient perdus, oui,
voilà.
C'est ça. Ouais.
Ben avec l'avènement du rasoir jetable Gillette et de la tondeuse électrique. Pardon, excusez-moi. Ça a forcément beaucoup changé les habitudes et les comportements.
Et oui, les blaireaux, on n'en trouve plus de blaireaux.
Vous en trouvez, mais c'est vrai que souci pratique ou parce que c'est compliqué, c'est sûr, de prendre un blaireau, un savon à barbe. Mais en même temps, il y a un vrai plaisir dans le geste et puis dans le temps qu'on prend à utiliser ces outils. Et puis aussi, après, dans le résultat, c'est-à-dire que vous serez jamais mieux rasé qu'avec un blaireau, avec un vrai savon à barbe, plutôt qu'une bombe de mousse à raser que vous achèterez dans le commerce.
Voilà. C'est un concept 100% made in France. C'est la French Touch.
Exactement. On revendique vraiment, nous, l'approche French Touch, enfin française. On est très fiers parce qu'on est assez légitime là-dessus pour parler de ce métier. Et puis, de manière générale, on va dire d'un savoir-vivre masculin. Et donc, on essaye de marquer notre différence par rapport à ce qu'on pouvait trouver en Angleterre ou dans d'autres pays qui pratiquent, ou par exemple les barbiers turcs ou dans d'autres pays qui ont des pratiques totalement différentes. Ni meilleures, ni moins bonnes, mais une fois de plus différentes. Et nous, on revendique ce côté français et ce savoir-faire.
Quelle est votre clientèle, David ? C'est l'homme de l'ado qui commence à avoir une petite barbe jusqu'au papy ?
On est transgénérationnel. On va retrouver chez nous toutes les tranches d'âge. Et on aime ça d'ailleurs, on aime bien mixer toutes ces générations et tous ces styles. C'est vraiment, on a une philosophie vraiment de rencontre entre les personnes, de prendre le temps, de se poser. Chez nous, les prestations durent un certain temps et on est là pour accueillir les gens et les obliger à reprendre un petit peu le temps de prendre soin d'eux.
Ouais.
Et donc, du coup, de côtoyer en effet des gens plus âgés, plus jeunes. Tout type de style.
Vous n'avez pas envie qu'on vous colle une étiquette je sais pas, un coiffeur, un barbier uniquement pour les dandies par exemple?
Pas du tout.
Vous n'êtes pas ça.
On essaye, dans la mesure du possible, et j'espère que le pari est à peu près réussi, de sortir de tous les sentiers battus, de toutes les étiquettes qu'on pourrait nous coller.
Ouais.
Déjà parce qu'on le fait nous avec le cœur, et donc ça ne ressemble qu'à nous. Et on essaye de surtout pas le faire à la manière d'eux, ou dans l'idée de copier quelque chose d'existant. On essaye d'être précurseur et en tout cas d'inventer notre façon de faire. Et puis après, par souci, une fois de plus, d'être le plus large possible et le plus accueillant possible par rapport à tout type de clientèle, de ne pas être restrictif par rapport à un socio-style ou un style fashion, c'est-à-dire un type de personne qui serait plus marquée qu'une autre.
On forme des barbiers en France aujourd'hui. C'est un métier... comment on apprend en fait ce métier de barbier ?
Alors le métier de barbier est quelque chose qui est assez à la mode ces temps-ci. Et en même temps, il y a un vrai déficit dans la formation des coiffeurs, puisque ça fait partie du cursus pour avoir un diplôme de coiffeur. Il y a quelques heures qui sont consacrées à la taille de barbe, mais qui sont franchement ridicules par rapport à la mise en pli, à la couleur ou à d'autres problématiques. En tout cas, la barbe est quelque chose qui est très très mal enseigné dans les écoles, et nous on voit bien en voyant passer les recrutements, etc., de personnes qui sont en souffrance par rapport à ça. D'où l'idée de monter une école de formation pour accompagner les professionnels à se réapproprier ce métier.
Donc, c'est-à-dire que vous formez aussi de futurs professionnels?
Exactement. On a en fait, en partenariat avec, une fois de plus, mon associé Hervé Boisbosso, transformé son ancien salon de coiffure en école de formation. En l'appelant Tonsor School. Et donc, c'est un centre de formation agréé par l'État et plutôt destiné aux professionnels du monde de la coiffure.
D'accord. Donc, vous voulez vous former à partir de quel diplôme, quel niveau? Pour rentrer chez vous,
il faut juste que la personne, les trois quarts, enfin même 90% de nos étudiants sont des professionnels déjà installés en salon. Et on propose comme ça différents cursus qui vont de une journée jusqu'à plusieurs jours, en essayant d'être le plus large possible dans toutes les problématiques. Donc on va aborder le rasage à l'ancienne, les coupes rétro, etc. Sur chaque aspect où on estime pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à leur acquis de professionnel.
D'accord, vous avez été un des premiers à vous lancer sur ce créneau en France.
En France, c'est vrai que je ne connais pas, ma connaissance, mais après je ne suis pas non plus expert en la matière et j'ai peut-être pas une très bonne connaissance, mais je ne connais pas en effet d'autres écoles de formation dédiées au métier de barbier à l'ancienne et de coiffure à l'ancienne. Il y a une école qui fait un peu référence, qui est à Rotterdam, qui s'appelle Shorem, qui est un salon assez connu et qui a monté son cursus de formation barbier et coupe rétro aussi.
David, votre parcours, vous venez de quel univers ?
Alors moi j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai commencé dans la création en fait, j'étais designer à la base, infographiste.
Pas dans la coiffure alors ?
Pas du tout, non, je suis très très loin de ce milieu et même très loin même du milieu du commerce, de proximité. J'ai commencé dans la publicité en travaillant chez OSCG à Paris. De là, j'ai pris la vague Internet, la grande époque, quand on était encore dans l'Eldorado d'Internet, au tout début. J'ai pratiqué comme ça plusieurs startups, et puis je suis rentré dans une très grosse agence qui s'appelle Full Six, qui est une des agences leaders en Europe, où j'ai fait vraiment mes armes sur la partie interactive. J'ai évolué en tant que directeur artistique, puis directeur de création, et puis après j'avais une double casquette consultant et directeur de création. Et en 2002, j'ai créé mon agence interactive à Toulouse, qui s'appelait Xprime, que j'ai dirigée pendant plus de 12 ans, puisque je l'ai revendue en 2014. Entre-temps, on a commencé à 5 personnes, on a fini, on devait être à peu près 80 salariés.
Ah, c'est une belle réussite, ouais.
Avec une implantation à Toulouse, une implantation à Paris, et positionnée sur essentiellement des entreprises du CAC 40.
Et là, alors aujourd'hui, c'est complètement différent.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience, sur un plan très personnel ? Là, vous êtes deux, c'est ça, avec Hervé, vous êtes deux.
On est deux, pour l'instant, deux associés. Le capital s'ouvrira peut-être après pour faire entrer d'autres personnes sous réserve qui ont une valeur ajoutée à chaque arrivée. Sur un plan personnel, mais c'est un choix vraiment personnel de me
faire... Choix de vie.
Choix de vie, puis de me faire plaisir, de relever. Évidemment, il y a, comme dans tout défi entrepreneurial, il y a des challenges à relever. Mais c'est surtout de travailler dans un secteur qui me plaît. Et puis,
parce que c'est radicalement différent.
Oui, mais en même temps...
Mais donc, vous êtes dans la création encore. Hein, pardon,
exactement, c'est vraiment de la création. C'est-à-dire, l'idée, c'est de créer une marque qui s'appelle Tonsor et Compagnie, qui est un contenant. Et dans lequel je vais pouvoir mettre tout le contenu que je veux.
Ouais.
Et donc, à l'intérieur de ce contenu, on va pouvoir travailler, puisqu'on crée, nous, nos propres lignes de produits. On travaille sur autant le secteur du textile que du bijou, que de la cosmétique. Et là-dessus, on part à chaque fois de page blanche. On crée totalement les produits de A à Z. Donc ça, c'est une belle aventure. Il y a toute l'histoire qu'on va raconter autour de ces vieux métiers, qui est très intéressant en termes de communication. Et puis, il y a cette partie social club qui permet de créer de la rencontre, ouais, d'aller chercher des artistes. Là aussi, c'est aussi...
Tout le côté événementiel.
Un aspect très intéressant.
Ouais. On reconnaît bien en vous et le créatif.
Voilà.
Vous restez avec nous, David, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Merci à vous, David Ferrara, d'être notre invité. Vous êtes le fondateur de Tonsor et Compagnie, un espace dédié réservé aux hommes dans le centre-ville de Toulouse. Bonjour Michel Dagra.
Bonjour.
Merci Michel d'être avec nous, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité.
Oui, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je me rappelais quand j'étais jeune, j'allais avec mon père me faire coiffer, place Wilson, chez un coiffeur qui a disparu depuis longtemps, et où vraiment on faisait salon, dans ce salon de coiffure, que ce soit celui qui se faisait couper celui qui le coiffait, et les clients qui étaient dans le salon, tout ça discuter, papoter, échanger sur la municipalité de l'époque, des questions politiques, tout ça. Donc il y avait une ambiance de club. Là, c'était assez feutré pour que les opposants, ceux qui avaient tout pour s'opposer, ne se fassent pas mal. Hein. Il y avait des couteaux dans le coin, il y avait le rasoir, le coupe-chou. Hein. Mais en vous écoutant, là, vous parliez du social club. Je me demande comment ça marche. Là. Est-ce que c'est vraiment intergénérationnel? Bon, vous accueillez des artistes, mais est-ce que c'est l'occasion d'échange entre ces clients? Que se passe-t-il là-dedans?
Alors, le social club, il fonctionne sur plusieurs aspects. Vous avez social club, en fait, c'est une partie du lieu où on exerce qui est en fait un salon d'attente à la base et qui sert de salon d'attente pour les clients qui viennent pour les soins. Dans ce salon d'attente, les clients peuvent être amenés à attendre entre 20 minutes et parfois plusieurs heures.
Plusieurs heures.
Ça peut arriver.
Vous êtes très très demandé.
On est assez demandé. On a tout fait, en tout cas, pour rendre cet espace-là le plus convivial possible, c'est-à-dire mettre en place des jeux de société, type échecs, jeux de cartes, etc. Proposer du café, des friandises, du thé, etc. Et donc, on invite, en effet, les gens à partager dans ce salon. La réalité est parfois pas celle qu'on souhaiterait, puisque aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies, les gens arrivent souvent avec leur téléphone ou leur tablette.
Ils sont connectés.
Peuvent se poser dans un coin et faire leur vie un petit peu de manière fermée. Ce qui est pas bon, enfin.
C'est pas le but. Vous leur expliquez que.
Non, mais en fait, je pense moi, enfin, l'idée c'est aussi que ça se fasse petit à petit. Il y a une question de d'état d'esprit à infuser, et puis les gens voient bien qu'en tout cas nous, on n'est pas des simples marchands et des simples boutiquiers, et qu'on est là pour essayer de discuter avec eux, d'engager la conversation, et voire même parfois de lancer le débat entre plusieurs clients qui peuvent être là. Mmh. En tout cas, nous, on est très friands, voilà, d'échanges. Il y a un autre aspect du Social Club, pour répondre à votre question, qui sont les événements qu'on organise et qui souvent se passent en début de soirée, 19h30 jusqu'à 21h, où là on est en petit comité, et là par contre l'alchimie prend bien. C'est-à-dire qu'en effet, quand on invite un artiste pour faire un concert, souvent on couple ça avec une petite dégustation, typiquement on peut avoir un concert de blues et une dégustation de whisky. En général, vous avez 15-20 personnes, et comme on est en petit comité, dans un lieu qui est assez réduit, les gens se retrouvent obligés de discuter entre eux, voire même de discuter avec les artistes, et là, le pari est réussi.
Autrement dit, ce que certains font dans des cafés citoyens, vous envisageriez de le faire dans le salon citoyen.
Tout à fait, pourquoi pas.
Ça, donc, le service de l'homme que vous annoncez au départ... Et ça, mais je trouve ceci très intéressant, ne concerne pas simplement le look, la coiffure, la barbe, les bijoux, etc., mais aussi cette dimension relationnelle entre les personnes.
On croit beaucoup dans les valeurs de notre marque. Mmh. Et donc, ce qu'on essaie de vendre avant tout, c'est ça. Plus que le look, mmh, ou les accessoires, ou je ne sais quoi. Une fois de plus, le concept repose sur quelque chose qui est très global. Comme je le disais tout à l'heure, un contenant dans lequel on peut imaginer beaucoup d'idées, et la base de tout ça, le liant de tout ça, ce sont des valeurs.
Et ce social club là, il est animé, il y a quelqu'un qui anime, qui peut gérer le groupe si jamais il y a un conflit d'idées.
Les gens sont jamais seuls.
Ouais.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de soucis. Je pense pas qu'il y en ait. Mais si le cas échéant, ça se produisait, oui, en effet, on peut être là.
Vous pourriez jouer le rôle du modérateur.
Tout à fait. Ouais,
mais pas derrière un écran.
Oui. Pas derrière un écran. Tout à
fait, vous misez en fait beaucoup sur le lien social, sur la proximité.
Oui.
C'est important ça pour vous?
C'est important, c'est pas après, c'est pas...
J'allais dire pour vous, en tant qu'être humain.
En tant qu'être humain, oui, moi j'y crois énormément. C'est-à-dire que, je pense qu'il faut pas être rétrograde non plus. C'est-à-dire, je suis pas à la recherche du temps passé, ouais, en disant que c'était mieux avant, etc. C'est pas du tout mon propos. On est dans une époque moderne. Je crois beaucoup dans les nouvelles technologies pour y avoir beaucoup travaillé. Je pense que les réseaux sociaux apportent énormément aux gens. Et aussi, ont tendance aussi à détériorer certains aspects de la communication.
Donc il y a le phénomène de libération par rapport à tout ce qui...
L'idée, c'est de faire le bon mix entre tout ça. Voilà. C'est-à-dire de proposer... on communique, nous, énormément sur le digital et sur les réseaux sociaux. Ce qu'on communique, d'ailleurs, on essaie de communiquer des choses vraies, c'est-à-dire des vraies photos, des choses qui se passent chez nous et qui racontent vraiment une histoire. Et en parallèle de ça, je crois, en effet, énormément au lieu physique, et à la vraie vie, à ce qui se passe dans la vraie vie, et le contact que peuvent avoir les gens entre eux.
Entre eux, tout à fait.
Un petit détail technique, justement, dans cette idée de respect et de communication dans la diversité. Est-ce qu'il vous arrive au salon d'avoir une demande de coiffure plutôt classique, mais éventuellement d'un jeune qui souhaiterait une coiffure punk là, avec une crête violette ou que
ça,
sais-je encore.
Non, ça se fait plus, ça.
Je date déjà même là. C'est terrible.
Non, une fois de plus, nous, notre positionnement, quand vous venez chez nous, les choses sont assez claires. On est, une fois de plus, on est, moi je dis coiffeur barbier à l'ancienne.
D'accord.
C'est pas restrictif, c'est-à-dire qu'en effet, les gens peuvent nous demander à peu près ce qu'ils veulent, mais une chose est sûre, chez nous, on fait pas de couleurs, on fait pas de permanentes, on fait pas de choses compliquées, techniques.
D'accord.
Donc on est sur des choses qui sont assez simples. D'accord. À partir du moment où ça reste dans ce cadre-là, on est capable de tout faire. Mais il nous arrivait des gens qui venaient et qui nous disaient, voilà, je veux une permanente, j'aimerais bien avoir une... On ne sait pas faire.
Des extensions de barbe, vous faites ?
Des extensions de barbe, on ne fait pas. Ah. Voilà. On ne fait pas de choses fabriquées. Voilà.
D'accord. Du naturel.
On est dans du naturel et dans l'accompagnement pour que les gens s'aiment tels qu'ils sont. Voilà.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un impact de votre souci de créativité, d'inventivité ? Là, ce désir que... À travers votre témoignage, on sent très fort d'être un créateur. Est-ce que ça passe d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas laquelle, dans la clientèle, ça ? Est-ce que ça impacte la clientèle ?
Oui, que vous dites, clients.
Je ne peux pas vous... Enfin, moi, c'est à eux qu'il faut poser la question, là.
Oui.
Je ne vais pas parler en leur nom. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que quand vous êtes sincère et que vous êtes passionné dans ce que vous faites, il y a forcément quelque chose, une part de vous qui se détache et qui va communiquer avec les autres. Donc le moteur, il est là. Et je pense qu'en effet, la réaction qu'on peut voir, c'est que souvent les gens sont surpris qu'on puisse les aborder et puis leur parler de prendre comme prétexte un pull ou un pantalon, mais rapidement dépasser l'article pour expliquer l'histoire de la création de cet article, pourquoi on l'a choisi, qu'est-ce que ça défend comme valeur, etc. Et on peut emporter comme ça les gens assez loin d'un simple acte d'achat. Et on les amène même sur des actes d'achat qui sont ce que moi j'appelle des actes d'achat responsables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'achète et j'achète parce que j'ai des convictions dans ce que j'achète, au-delà de la qualité du produit, etc. bien sûr.
Comment vous allez vous développer ? Est-ce qu'on peut imaginer un développement en franchise ?
Oui, le concept est pensé pour ça, mais avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire que je veux surtout pas dénaturer cette valeur ajoutée. Mmh. Et donc je suis pas dans une logique de franchise avec beaucoup de franchisés, etc. C'est pas du tout le but du jeu. On est plutôt dans une franchise que je dirais de notoriété. Donc essayer de sélectionner quelques endroits. Plutôt des capitales européennes, ouais. Puisque l'idée c'est de rapidement passer à l'international, et qui seront un petit peu des faire-valoir de la marque, sachant que le cœur de notre activité, au-delà des lieux physiques, c'est notre e-commerce et ce qui se passe sur Internet. Voilà.
Vous vendez en ligne ?
On vend en ligne, tout à fait. Ouais.
Et le statut social de votre clientèle, si je puis exprimer cette idée-là, est-ce qu'il est caractérisé ou est-ce que c'est vraiment ouvert à toutes les couches socio-professionnelles ?
Une fois de plus, il n'y a aucune ségrégation,
oui,
aucun choix.
Mais de fait.
Je pense qu'il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que vous avez des gens, on a des étudiants, des gens qui ne sont pas encore dans la vie active. Et qui viennent parce qu'ils ont envie de venir chez nous. On a des gens très BCBG, on a des dandys, on a des hipsters. Enfin, si vous voulez coller des étiquettes, je peux toute la panoplie de styles qu'il peut y avoir.
C'est beaucoup plus une idée sociologique qu'une distribution d'étiquettes.
Oui, mais une fois de plus, je suis assez content. C'est-à-dire que voir qu'on a des personnes assez âgées qui viennent chez nous et qui se retrouvent assez amusées de côtoyer petits jeunes qui sont là un petit peu précieux. Ou moins, etc. Ça, c'est toujours une aventure humaine qui est intéressante.
C'est une vraie richesse pour vous, ça.
Oui.
Et c'est ce que vous n'aviez pas avant dans votre carrière, ce qui vous manquait à un moment ?
Non, moi je me suis toujours beaucoup épanoui dans le travail. Avant, j'étais dans un secteur qui était totalement différent, qui était la communication, le marketing, spécialisé dans les nouvelles technologies. Ouais. Ce qui m'a énormément plu dans ma précédente vie, c'était que j'étais à l'origine de la naissance d'Internet. Donc il y a vraiment une effervescence incroyable à la fin des années 90 qui a duré jusqu'au milieu des années 2010. Et puis je suis parti avec un pari qui était une petite structure que j'ai amené en devenant un des leaders en France. Je suis allé bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer au démarrage. Et à un moment donné, la vie a fait que j'ai eu une opportunité pour vendre. Et ça correspondait aussi à un moment donné où j'avais l'impression que j'avais fait le tour un peu du sujet. C'est-à-dire que ça faisait déjà plus de 20 ans que je travaillais dans ce secteur-là. Je dis pas que je maîtrisais tout, que j'avais tout fait. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en même temps, j'avais épuisé un petit peu mon envie autour de ça. Et l'envie de se réinventer, de partir sur autre chose.
Michel,
oui, je trouve que c'est vraiment intéressant pour les hommes qui viennent vous voir. C'est avec cette ouverture possible, cette libération de la bombe rasée, du jetable. Vous me faites rêver. Je pense à mon père avec son coupe-chou en train d'aiguiser ça sur sa... On appelle ça comment, là, sur cette chelissoire de cuir,
oui,
là.
C'est moi qui n'ai pas le terme.
Je suis content, je vous ai posé une colle, c'est superbe.
Je
ne
pouvais pas vous aider.
Et ça, c'était un geste matinal que j'ai vraiment en mémoire et je le retrouve en vous écoutant.
Mais
vous ne connaissez pas le nom de l'outil, il faudra le trouver.
Non, je le connais, mais je l'ai oublié. Hein, désolé.
Et le barbier à domicile, vous imaginez ?
Non. Non, parce que une fois de plus, on est vraiment dans une démarche. Ce qu'on défend, c'est le fait que les gens fassent l'effort de venir, l'effort de se poser, l'effort de rencontrer. Et donc, à partir de là, ça ne peut se passer que chez nous et pas chez eux. C'est un autre concept qui est peut-être une idée inventée, hein, mais qui ne sera pas la nôtre.
Merci beaucoup, David. On peut donner votre adresse, votre site internet.
Alors, mon site internet, c'est www.tonsort-cie.com.
Merci beaucoup.
Merci à vous
de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.